Vous écoutez la matinale.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
De sujets moins sérieux.
Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Ile-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Dans un article récent pour le New York Times, Suzanne Dominus se demande « Est-ce qu'Internet a changé la voix des femmes ?» Car vous l'avez peut-être remarqué, mais les voix par défaut des assistants vocaux de type Siri, Alexa, Google et maintenant des intelligences artificielles sont toutes féminines. Depuis le début des télécommunications, en fait, la voix par défaut est une voix de femme, c'est-à-dire une voix plaisante, aidante, immunisée aux insultes. La journaliste ainsi continue. Cette voix féminine n'est pas la voix de l'opprimé, celle avec un accent. C'est une voix de service qui est systématiquement déracinée au-delà de la norme, suggérant implicitement que l'aide idéale n'est pas seulement féminine, mais aussi blanche. Plus encore, les réponses apportées par ces assistantes vocales étaient, et sont toujours on ne peut plus problématiques, comme le prouve le rapport « Je rougirais si je pouvais » de l'UNESCO. Le titre vous paraît étrange ? C'est ce que répondait encore Siri au prompt vocal « You're a bitch ». Ces réponses dociles, évasives, voire joueuses aux insultes et aux provocations sexuelles, ne sont pas pour autant sans effet. Toute une génération de jeunes filles et de jeunes garçons se socialisent et socialisent leurs interactions sur ces voix et sur la manière de leur répondre, mais aussi celle qu'elles ont de leur répondre. Alors des solutions existent, notamment pour mêler voix et intelligence artificielle de manière éthique. 18 en tout, comme propose le même rapport de l'UNESCO. Parmi elles, par exemple, recruter davantage de femmes dans les processus de développement des assistants vocaux, ou encore proposer aux utilisateurs et aux utilisatrices une voix féminine, aussi une voix masculine, voire une voix non genrée. Aujourd'hui, dans la matinale, en première partie d'émission, Lila recevra Anne Savinel Barras, présidente d'Amnesty International France, pour nous parler ce soir de la décision de Bruno Retailleau de dissoudre le collectif Urgence Palestine. En deuxième partie d'émission, Francesca nous présentera les news de la journée, Hugo recevra le groupe Los Fanfarons pour nous parler de leur nouvel album, Fabien nous présentera quant à lui des infos insolites, et Delila nous fera rire, rigoler. Et même si je peux aussi le rajouter, rire.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris 93.9 FM et c'est toujours la matinale. Alors que le monde entier semble enfin prendre conscience des conséquences de la politique génocidaire du gouvernement israélien. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a annoncé le 30 avril son intention de dissoudre le collectif Urgence Palestine. Avec nous ce soir, Anne Savinel Barras, vous êtes présidente d'Amnesty International France depuis juin 2024, et vous venez donc nous parler ce soir de cette intention de dissolution, mais aussi de la répression de la liberté d'expression et de la liberté d'association qui en découle. Bonsoir Madame Savinel Barras, est-ce que vous nous entendez ?
Bonsoir. Oui, je vous entends très bien.
Bonsoir Madame Barras. Amnesty International, organisation dont vous avez la présidence de la branche française, est une ONG créée dans les années 60, comptant aujourd'hui 10 millions de membres à travers le monde et œuvrant pour la protection internationale des droits de la personne et l'aide aux victimes. L'organisation Urgence Palestine, au sujet de laquelle je souhaiterais échanger avec vous aujourd'hui, est un collectif français fondé le 8 octobre 2023 en réaction à la réponse disproportionnée du gouvernement israélien au massacre du 7 octobre et mobilisé depuis contre le génocide en cours à Gaza. Mais voilà, le 16 mai, le ministère de l'Intérieur a réaffirmé son intention de dissoudre Urgence Palestine. C'est donc engagé une procédure contradictoire qui pourrait déboucher sur un décret de dissolution que l'association pourrait ensuite contester devant le Conseil d'État. En décembre 2024, Amnesty International a produit un rapport conséquent démontrant que les autorités israéliennes commettent un crime de génocide sur la population de Gaza. Plus récemment, l'ONG que vous représentez a publié un communiqué de presse condamnant la procédure de dissolution visant Urgence Palestine. Mais alors, en quoi l'action de groupes et d'associations comme Urgence Palestine est essentielle pour mobiliser face au génocide en cours à Gaza ?
Alors effectivement, la volonté du ministre de l'Intérieur de dissoudre l'Urgence Palestine est un signal très alarmant qui est fait aux défenseurs des droits des Palestiniens alors que nous sommes, comme vous l'avez dit, en plein génocide à Gaza. Urgence Palestine est une association de Palestiniens, enfin qui a été fondée par des Palestiniens en exil. Et donc c'est une association importante pour la solidarité envers les Palestiniens. Et donc, c'est extrêmement inquiétant, effectivement, de s'attaquer à elle, alors que, par ailleurs, nous dénonçons plus que jamais le génocide en direct aujourd'hui à Gaza. Alors, nous sommes... Oui, pardon,
allez-y. Pardon, je vous laisse continuer.
Nous sommes effectivement en attente de la décision du Conseil des ministres concernant cette dissolution. Je ne sais pas quand le Conseil des ministres se prononcera, mais effectivement, on est aussi inquiet à propos des dissolutions d'associations en France, alors que la France n'est pas conforme au droit international sur ce sujet.
Et justement, à ce sujet, on l'a vu, les mobilisations françaises, en particulier en soutien à la Palestine, elles ont fait l'objet d'un grand nombre de restrictions, de l'interdiction systématique de manifestations, jusqu'à la dissolution potentielle d'Urgence Palestine aujourd'hui. En quoi cette procédure de dissolution, comme les différentes restrictions prises à l'égard de ces mobilisations, sont contestables d'un point de vue juridique, selon vous ?
En premier lieu, on peut dire qu'une dissolution d'association illustre en fait la dégradation continue de la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique en France. La dissolution est un acte très grave qui en fait est normalement réservé aux situations dans lesquelles aucune autre mesure ne peut permettre de sanctionner des manquements éventuels au droit. C'est une restriction extrêmement sévère du droit à la liberté d'association qui est protégée par le pacte international relatif aux droits civils et politiques et par la Convention européenne des droits humains. Deux textes qui ont été signés et ratifiés par la France. Alors, on assiste aussi globalement en Europe et ainsi qu'aux États-Unis à des restrictions disproportionnées des libertés d'expression et de réunion pacifique concernant les défenseurs des droits des Palestiniens. En France, ça fait déjà plusieurs mois hein, que nous dénonçons des restrictions disproportionnées. Donc, nous avons eu donc il y a quelques mois des manifestations interdites, avec même une demande d'interdiction des manifestations de solidarité avec les Palestiniens sur l'ensemble du territoire. Bien heureusement, cet arrêté n'a pas pu être prononcé puisque le Conseil d'État s'y est opposé. Mais on a eu aussi des restrictions concernant des chants, des pancartes, des drapeaux, des signes en fait que pouvaient présenter certaines personnes qui souhaitaient apporter leur soutien aux Palestiniens. On a assisté aussi à des arrestations et à des usages excessifs de la force par les forces de l'ordre. Donc, nous sommes effectivement inquiets de ces restrictions. Encore une fois, la dissolution d'association, c'est une mesure exceptionnelle. Elle doit être prononcée dans des cas très limités et en dernier de recours s'il n'y a pas d'autres mesures moins restrictives pour remplir le même objectif. Et le droit français n'est pas conforme avec le droit international des droits humains, car dans ce droit international, la dissolution ne peut pas être prononcée pour des motifs vagues, ce qui est pourtant le cas ici en France. Et pour le droit international, la dissolution ne peut pas être prononcée sans un contrôle judiciaire préalable. Ce qui donc n'est pas le cas non plus en France. Donc la France doit se mettre en conformité avec le droit international, ça semble être réellement très important, et le gouvernement français doit travailler à la protection de la liberté d'expression, d'association sur l'ensemble du territoire et particulièrement ces derniers temps, parce que ces restrictions ont concerné, ont ciblé les défenseurs des droits des Palestiniens et aussi des défenseurs de l'environnement, comme on a pu le voir au niveau des manifestations pour l'A69.
Comme vous l'avez dit, il y a eu énormément donc, de restrictions et de répressions vis-à-vis de manifestants et manifestantes pour les droits des Palestiniens et des Palestiniennes, entre autres. Pourquoi, d'après vous, est-ce que cette décision de dissolution d'urgence Palestine a été prise maintenant par Bruno Retailleau ?
Écoutez, on est dans un contexte difficile dans lequel on voit bien que le ministre de l'Intérieur a une tendance assez obsessionnelle hein, à associer les personnes et les organisations de défense des droits des Palestiniens avec le terrorisme, l'entrisme, le séparatisme, enfin, avec cette idée qu'en fait, à partir du moment où des personnes musulmanes ou perçues comme telles ou des personnes arabes revendiquent une cause qui, en plus, ici, est parfaitement justifiée, on les associe à quelque chose qui, pour nous, ressemble fortement à de la discrimination, pour ne pas dire du racisme. Donc ça, je pense que c'est une tendance, hélas, en France, et que notre ministre de l'Intérieur ne se prive pas de propos qui ne vont certainement pas dans le sens du respect de l'ensemble des personnes présentes sur notre territoire. Et donc, ça nous inquiète effectivement beaucoup. La France a du travail à faire pour respecter ses obligations en matière justement de non-discrimination et de lutte contre le racisme. Et donc, nous attendons bien entendu notre gouvernement sur ce sujet.
Les avocats, justement, à ce sujet d'urgence Palestine, font état d'un climat global dégradé du point de vue de l'état de droit. Rejoignez-vous cette analyse ?
On a vu ces derniers mois une dégradation, globale en tout cas. Il y a quand même eu un certain nombre de sujets qui ont été mis sur le devant de la scène qui nous laissent à penser que l'état de droit pourrait être menacé en France. L'état de droit est menacé dans beaucoup de pays, sur tous les continents. La France n'est pas à l'abri des tendances anti-droits que l'on peut repérer dans de nombreux endroits. Et nous assistons, en France, à des discours d'abord déshumanisants, qui laisseraient à penser que toutes les personnes n'ont pas les mêmes droits sur notre territoire. Et nous entendons aussi des propos qui questionnent en fait le sens même de l'état de droit, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs.
Du ministre de l'Intérieur lui-même, d'ailleurs, qui disait...
Nous l'avons entendu. Effectivement, il a dit que l'état de droit n'était pas intangible, ce qui, pour nous, effectivement, est grave, parce que c'est bien l'état de droit qui permet le respect des droits humains, qui fait que chacun d'entre nous, nous sommes tous égaux devant la loi, et ça c'est vrai pour chacun d'entre nous. Donc, si notre ministre considère que l'état de droit n'est pas intangible, je ne sais pas où il veut le mener, mais en tout cas, c'est particulièrement inquiétant.
Et pensez-vous donc aux côtés d'Elsa Marcel, avocate du collectif, que la question palestinienne fait office de laboratoire pour s'attaquer finalement à toute l'opposition politique ?
Oh, alors là, je n'aurai pas de position sur le sujet. Ce n'est pas non plus le mandat d'Amnesty International de se prononcer sur de telles questions. Je préférerais revenir sur ce qui nous préoccupe au plus haut point aujourd'hui, c'est la situation à Gaza. Et de dire, mais est-ce que les autorités françaises ne pourrait pas se concentrer sur l'adoption de mesures urgentes pour mettre fin au génocide de Gaza, au lieu de réduire au silence les personnes qui dénoncent ces crimes. Voilà ce qui me semble réellement important de dire.
Merci beaucoup Anne Savenel-Barras. Restez avec nous, restez à l'antenne. On fait juste une toute petite pause musicale et on reprendra l'interview juste après. Pour le moment, on va écouter « Les anges » d'Arthur Ellie.
Thank you. Je reçois mes amendes par mail. C'est dommage, il fait beau. Je vais pouvoir m'enfermer dans ma chambre et revendiquer ma peau. D'ordinaire, je suis calme, mais aujourd'hui j'ai la tête de mort. C'est pour le corps des bêtes, pour le pétrole par terre, pour les avions du week-end pas cher, pour les oiseaux blessés dans la ville. Et on est grave nombreux. Je veux pas devenir un sac de mots chez le psy, donc je vous crie des trucs dans la langue des bêtes. J'ai le souffle court et la veine qui coule dans ma chambre, je reçois mes amendes par mail. Tous les jours on verse des poèmes par terre, et sur leur vieux monde on soupire comme si c'était nous les anges. Comme si c'était nous les anges. Comme si c'était nous les anges. Comme si c'était nous les anges.
Comme si c'était nous.
Je n'aurai ni voiture, ni le brillant futur. Rêvé par mes pauvres parents. Mouton en pâture, je brouterai les ordures. Nous, les enfants perdus, on fait des monticules. La terre saigne, dévorée par la teigne. Aujourd'hui il était dur, la putain d'année. Les incendies géants brochettent mon écran. Vague de bout de tsunami, plus de bombes et de corps. On danse sur leurs décombres, petites graines dans les airs. Sur leur vieux monde, on germe.
Comme si c'était nous les anges. 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 Comme si c'était nous les anges.
C'était Les Anges d'Arthur Ellie sur le 93.9.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Juste avant la pause musicale, Lila recevait Anne Savinel-Barras, la directrice d'Amnesty International France, la présidente, pardon, d'Amnesty International France, pour revenir sur la décision de dissolution d'urgence Palestine. Est-ce que vous êtes toujours au téléphone avec nous ?
Oui, je suis là.
Alors, on avait donc d'autres questions à vous poser, bien entendu, dont l'une, on a vu assez récemment, malgré tout, un certain changement dans le discours du gouvernement et notamment d'Emmanuel Macron sur la politique israélienne, notamment celle du Premier ministre Benjamin Netanyahou, pardon, qu'il qualifiait d'une honte, même s'il ne voulait pas lui-même utiliser le mot de génocide. Comment comprendre, en fait, cette volonté toujours donc du ministre de l'Intérieur, de dissoudre Urgence Palestine et de réprimer les manifestations, notamment pour le droit des Palestiniens et des Palestiniennes, alors même que certains membres du gouvernement, et notamment le président de la République, semblent changer un tout petit peu, en tout cas, leur discours.
Oui, effectivement, les discours changent, enfin, ils évoluent, ils bougent un peu, on va dire.
Oui, voilà.
Nous aimerions qu'ils bougent beaucoup plus que ça. Que ce soit dans ce contexte que le ministre de l'Intérieur annonce la dissolution d'Urgence Palestine, bien, ma foi, ça reste un grand point d'interrogation et peut-être s'agit-il de contrebalancer une certaine ouverture qui ont pu être faites par le président de la République. Je n'en sais rien, je ne suis pas dans leur tête. Je pense juste que c'est vraiment pas le moment de se poser une telle question et de poser une telle décision, comme si on voulait en fait réduire au silence toutes les personnes qui aujourd'hui veulent défendre le peuple palestinien, alors que plus que jamais, on a besoin de les entendre. Donc oui, je pense qu'il y a une tentative de silenciation des voix. Peut-être que ça gêne, effectivement, le gouvernement dans les positions qu'il prend. En fait, j'en sais rien, je ne peux pas me mettre à leur place. En tout cas, ce que nous pouvons dire, c'est que les quelques progrès qui ont été faits, effectivement, sont les bienvenus, bien entendu. entendu. Mais en fait, ils ne sont pas suffisants. Ils ne sont pas suffisants. C'est plus qu'une honte, ce qui est en train de se passer. Voilà, la situation est plus que dramatique. Les souffrances humaines endurées par la population de Gaza sont d'une ampleur qu'on ne peut même pas imaginer. Elles sont les conséquences vraiment du génocide qui est en cours. On peut dire qu'Israël est en train d'achever la transformation de Gaza en un enfer, en fait, de mort, de destruction, et ça sans relâche, sans pitié. Ce sont vraiment des souffrances délibérées qui sont infligées aux Palestiniens. Et donc, je pense qu'il n'y a pas assez de mots pour le dénoncer et que dans ce contexte, empêcher les gens de parler, je trouve ça absolument dramatique. Nous sommes à un point où nous ne savons plus comment dire les choses. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle ce matin nous avons participé à une action avec un collectif, avec Greenpeace, Médecins du Monde, Oxfam et ECHO. Nous avons donc teinté de rouge la fontaine des innocents à Paris. Un visuel extrêmement fort. Pour justement attirer le regard et dire qu'on n'en est plus au stade où il faut se polémiquer, où il faut se chamailler sur les mots. On en est à un stade où c'est extrêmement urgent. C'est pas dans un mois qu'il faut bouger, c'est maintenant. Chaque heure et chaque minute compte. Et personne aujourd'hui ne peut dire qu'il ne savait pas. Personne ne peut dire « je ne sais pas ce qui se passe à Gaza ». Je pense que nous avons suffisamment d'éléments maintenant. Nous-mêmes, ça fait plus de 6 mois que nous avons sorti notre rapport dénonçant un génocide. On avait déjà apporté à ce moment-là un grand nombre de preuves et d'analyses juridiques pour pouvoir parler de génocide. Aujourd'hui, d'autres preuves s'ajoutent chaque jour. Donc la guerre des mots à ce stade, c'est quelque chose que personnellement, je n'arrive pas à comprendre.
Oui. Et justement, pour rebondir là-dessus, quelle réponse, dans un monde idéal, attendriez-vous de la part du gouvernement face à la situation des Palestiniens? Est-ce que vous avez des exemples de mesures concrètes à mettre en œuvre?
Oui, il y a des mesures concrètes, effectivement. Les États, dont la France, peuvent faire pression sur le gouvernement israélien. Il y a des moyens de pression. Je pense notamment aux accords qui lient Israël à l'Union européenne, des accords commerciaux qui pourraient être remis en cause, mais pas dans un mois, pas dans 2 mois, maintenant, tout de suite. Et la France a vraiment un rôle important et une parole importante à ce niveau. Donc, faire pression sur Israël, c'est faire cesser le feu immédiatement et de manière durable. C'est vraiment le premier point. C'est bien sûr permettre la libération des otages israéliens toujours détenus dans cet enfer à Gaza. C'est aussi libérer les prisonniers palestiniens qui ont été arrêtés arbitrairement et détenus dans les prisons israéliennes. C'est bien entendu et de manière impérative, l'arrêt du blocus, car même si quelques camions arrivent à passer là depuis quelques jours, c'est totalement insuffisant. Enfin, le besoin en nourriture et en énergie est absolument immense. Et donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de camions qui doivent passer. Ce blocus est illégal. C'est interdit en droit international. Et on ne bouge pas. Il faut également faire cesser toutes les livraisons d'armes. Donc, aujourd'hui, voilà, il y a encore, Israël importe toutes les armes que son armée utilise sur Gaza. Donc, faire cesser les livraisons d'armes, je sais bien qu'il y en a beaucoup qui viennent des États-Unis, mais il y en a aussi qui viennent d'Europe. Et les États qui livrent des armes aujourd'hui prennent aussi le risque hein, d'être accusés de complicité de génocide dans quelques temps, puisque on sait très bien qu'un génocide est en cours. Voilà, enfin, des mesures concrètes. La CPI a prononcé des mandats d'arrêt contre Netanyahou et son ministre de la Défense. La France doit s'engager à respecter ce mandat d'arrêt et à le mettre en œuvre. Alors qu'au lieu de ça, on a parlé d'immunité, comme s'il n'y avait pas de justice et de responsabilité concernant les dirigeants israéliens. La Cour internationale de justice, en janvier 2024, a aussi émis un avis et on n'a pas mis en œuvre. Donc ça veut dire que depuis janvier 2024, la Cour internationale de justice nous alerte sur un risque de génocide. Aujourd'hui, on sait que le génocide a lieu, il est en cours et on ne bouge pas. Voilà. Donc oui, mais c'est nettement, nettement insuffisant.
Et comme vous dites, même c'est maintenant qu'il faut agir. C'était même hier qu'il fallait agir déjà.
Bien sûr, bien sûr.
Pour reprendre sur la dissolution d'urgence Palestine, quel recours est-ce que le collectif ou est-ce que Amnesty International a aujourd'hui pour se défendre contre cette volonté de dissolution?
À ce niveau, rien ne peut être fait puisqu'il faut attendre qu'effectivement le Conseil des ministres se prononce. Si le Conseil des ministres se prononce, eh bien, il y aura un décret de dissolution. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que Urgence Palestine pourra déposer un référé en justice, bien entendu. Si tel était le cas, oui, Amnesty International soutiendra ce référé. Je pense que c'est effectivement important. Non pas parce que nous sommes en accord total avec ce que fait ou dit Urgence Palestine. D'ailleurs, je ne connais pas plus que ça tout ce que Urgence Palestine fait ou ne fait pas. Mais c'est le principe, en fait. Le principe de défendre une association qui aujourd'hui à la fois défend, de défendre le peuple palestinien et ses droits, et ça c'est pour nous extrêmement important, et puis deuxièmement, une association qui est victime donc d'une mesure totalement disproportionnée, excessive, sans qu'il y ait eu au préalable la moindre mesure prise pour éventuellement sanctionner des manquements aux droits qu'ils auraient pu ou ne pas pu, je n'en sais rien, réaliser. Donc, rien que pour ça, effectivement, nous nous tiendrons aux côtés d'Urgence Palestine.
Et donc, depuis le début de la présidence Macron, il y a eu près de 50 décisions de dissolution d'associations qui ont été prononcées, seulement deux je crois, ont au final été annulés par le Conseil d'État. Nos libertés fondamentales, nos libertés d'association font-elles encore le poids? Est-ce que une décision de dissolution de l'association aurait une chance de se voir suspendre au final par le juge administratif?
Alors là, je n'en sais rien. On a vu effectivement par le passé que certaines décisions de dissolution n'ont pas été suivies, d'autres ont été suivies. On verra. Je ne peux pas prédire ce qui va se passer. Mais en tout cas, il est clair que le droit d'association et le droit d'expression sont deux droits fondamentaux qui doivent être défendus de manière forte. Et qu'aujourd'hui, en France, nous sentons effectivement une dégradation continue et voilà, s'il y avait dissolution et que celle-ci soit entérinée, eh bien, il nous faudrait certainement encore et encore revenir sur ce sujet. On évoquait tout à l'heure la question de l'état de droit, on évoquait la question de la restriction des droits ici en France, mais aussi partout dans le monde. Nous avons eu l'occasion de dire à la sortie de notre rapport annuel, fin avril dernier, à quel point la situation des droits humains est dramatique dans le monde. Et plus que jamais, nous devons nous mobiliser pour résister à ces tendances, ces influences anti-droits, résister et revendiquer effectivement le respect de nos droits. Et c'est aujourd'hui un enjeu particulièrement important.
Merci beaucoup Anne-Savine Albaraz d'avoir été à notre micro. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avons pour discuter de ce sujet extrêmement important et que nous suivrons de près. Merci Lila pour tes questions ce soir. On boucle cette première partie d'émission avec le Flash Info de Francesca.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Joël Skouarnec, condamné à 20 ans de prison de réclusion, 20 ans, pardon, de réclusion criminelle, dont 2/3 de peine de sûreté. Le verdict est tombé après 3 mois d'audience. L'ex-chirurgien Joël Skouarnec a été reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle sur près de 300 victimes, en grande majorité mineures. Il écope de 20 ans de prison, dont 13 ans et 4 mois incompressibles. Un chiffre glaçant, 300 victimes, 20 ans de prison. Donc aujourd'hui, à 15 victimes, vous écoperez que de 1 an de prison. 20 ans, c'est peu au regard du nombre de victimes que nous avons dans ce procès. Il est temps que les textes changent, a réagi Francesca Sattar, avocate de plusieurs parties civiles. Météo, l'été a décidé d'arriver en avance. Préparez les éventails, les ventilateurs et peut-être même les maillots de bain. Le premier coup de chaud de 2025 débarque en fin de semaine, annonce Météo France. Jusqu'à 36 degrés attendus dans le sud et ce n'est même pas encore mois de juin. Des pics de chaleur de plus en plus précoces à cause du changement climatique. Météo France vous prévient déjà, l'été s'annonce plus chaud que la normale. Les Français lèvent un peu le pied sur les incivilités au volant. Bonne nouvelle sur la route, selon le baromètre 2025 des autoroutes Vinci, les comportements dangereux et incivilités au volant sont en baisse. Parmi les bons points, moins de coups d'œil au smartphone, moins d'insultes et plus de respect sur les limitations de vitesse. Oui, on parle bien des conducteurs français. Enfin, football, Ligue des Champions, on ne peut pas rater ça. Le PSG est à 90 minutes ou plus de l'histoire. Le PSG jouera la finale de la Ligue des Champions ce samedi 31 mai. Une nouvelle occasion pour le club parisien de tenter de décrocher. Enfin, on croise les doigts, la coupe aux grandes oreilles. Après un parcours convaincant, les Parisiens sont à un match de la consécration et toute une ville, voire tout un pays, retient son souffle. Rendez-vous samedi 31 mai, match à suivre sur Canal+.
I'm the one this world was made for. It's easy for me, therefore I'll always have a lot to learn. I'm a cliche, I'ma take it as a compliment. 24, no accomplishments, just wanna brighten up the world. And we've been guessing without knowing about human nature. Some people think it's truth, I've got another answer. And if you'd ever seen the world through my eyes, you'd be hopeful every night. Is my life gonna crash? We've got the same things to ask. But if you'd ever seen the world through my eyes, you'd be hopeful every night. Is my life gonna crash? We've got the same things to ask, but not the same ways to answer. Spent my childhood learning how to talk. Now I'm learning to shut up, and I think that's real love. I'm glad I met you, my so beautiful people. Taught me how to live a little. I did take a look above. Not the same ways to answer.
C'était Candide d'Entropie sur le 93.9.
La matinale de 19h.
Rebonjour, rebonsoir à tout le monde. Il est 19h37. Fabien, ce soir, tu nous présentes des infos insolites, c'est ça ?
Oui, tout à fait, oui. Et on part tout de suite dans une boulangerie. Donc, c'est la boulangerie Magel, où vous pouvez avoir votre baguette gratuitement si vous entrez en dansant. En rock, en tango ou en freestyle, peu importe, tant qu'il y a de la joie. Et l'équipe de la boulangerie Magel se régale. Pour égayer le quotidien et y mettre une touche de légèreté, cette boulangerie installée à Soux, près de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, invite ses clients à entrer avec une petite danse, en échange de quoi le commerce offre une baguette. Des tranches de bonne humeur filmées qui font le buzz sur les réseaux sociaux, leurs vidéos cumulant plusieurs centaines de milliers de vues quand même. Une manière de partager sur internet le quotidien d'une boulangerie qui montre régulièrement en vidéo d'autres moments de joie, mais aussi de galère. Et si vous voulez voir quelques vidéos, vous vous rendez sur leur page Facebook Boulangerie Mangel, M-E-N-G-E-2-L-E. Et puis ce jeudi, plus de 2000 personnes ont assisté au nouveau spectacle du Puy de Fou, l'épée du roi d'Arthur. Le parc d'attractions a profité de cet événement pour donner le coup d'envoi d'une gigantesque chasse au trésor, la quête d'Excalibur. L'épée magique de la légende du roi d'Arthur a été enfouie quelque part en Europe de l'Ouest et les participants devront décrypter 12 énigmes enluminées pour localiser un coffre. Le premier à mettre la main sur ce coffre remportera une épée en or ornée d'un spinel rouge de 6 carats. Sa valeur est quand même estimée à 250 000 euros. Le gagnant sera invité à la cérémonie clôture de la chasse pour une remise officielle de l'épée d'Excalibur. En revanche, la participation à ce jeu n'est pas gratuite. Les joueurs devront acheter un coffret à 39 euros qui comprend le jeu en version physique et digitale. Et puis, pour sa troisième tentative, la ville de Landerneau en Bretagne a réussi à rassembler plus de 3000 schtroumpfs. Les Landernéens ont fêté l'événement à leur façon. La troisième tentative de record a été la bonne. C'est samedi 17 mai que la ville de Landerneau a battu le record du monde du plus grand rassemblement de schtroumpfs. Ils ont réuni 3076 personnes, tous déguisées en schtroumpf, schtroumpfette ou grand schtroumpf. Et les Landernéens n'en sont pas à leur coup d'essai. Juste avant le confinement du Covid-19, Landerneau avait cru avoir battu le record du monde avec 3549 schtroumpfs. Mais malheureusement, le livre Guinness a invalidé leur décompte parce qu'il manquait un document. Ils ont donc retenté leur chance en mars 2023 et ça n'a pas marché non plus parce qu'il n'y avait que 231 schtroumpfs. Et après une troisième tentative, et c'est grâce à la Paramount d'ailleurs qui est venue pour promouvoir leur film Les Schtroumpfs, le film qui sortira donc le 16 juillet prochain, la société de production a quand même offert 1200 places pour une avant-première du film, une réussite puisque 3076 personnes sont venues pour l'événement et qu'ils ont gagné le record. Le précédent record appartenait à l'Allemagne, à la frontière de la Suisse. La commune de Lonschringen avait réussi à rassembler 2762 schtroumpfs. Et enfin, donc, pour terminer, c'est dit, ChatGPT, est-ce que tu peux me planifier un itinéraire pour une randonnée ? Voilà à quoi a ressemblé l'interaction entre des randonneurs désireux de s'aventurer dans des montagnes canadiennes et l'intelligence artificielle peut être terrible. Tout simplement parce qu'ils se sont lancés dans leur ascension mal équipés avec des baskets à semelle plate et ignorant que les sommets de la région étaient encore enneigés. Et c'est finalement une équipe de secours qui n'eut les sortir de ce pétrin. Selon les chefs de l'équipe de recherche et de sauvetage, quand on se sert de l'IA générative, il faut être suffisamment précis dans sa requête pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Il s'agit d'un obstacle de taille pour les novices qui ne savent souvent pas ce qu'il faut demander. Et pour éviter toute mauvaise surprise, comme ce fut le cas pour ces deux randonneurs, le mieux est de se renseigner directement auprès des personnes compétentes, de sites officiels ou encore de groupes Facebook où d'autres randonneurs pourront donner des conseils à viser et éviter ChatGPT.
www.offersarandonnée.com. Merci Fabien. Et tout de suite, on passe au Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Alors aujourd'hui, en studio avec nous, Los Fanfarons, bonsoir. Désolé
bonsoir.
Si je prononce mal.
Justement, tu le prononces trop bien en fait. Oh. Mais il faut le prononcer à la française. Los Fanfarons.
Los Fanfarons, voilà. Très bien. Et vous venez nous parler de votre dernier album, c'est bien ça. Et vous êtes reçu par Hugo. Coucou,
yes.
Hugo.
Coucou, comment ça va?
Ça va et toi?
Ça va super. Je suis trop content de vous recevoir. Vous êtes un duo de DJ, Cléa et Romain. Donc le groupe s'appelle Los Fanfarons. Et vous venez pour la sortie de votre premier album, Ventilo, qui est sorti le 23 mai. Vous chantez, enfin, les titres sont en français, en kabyle, en espagnol et en italien. C'est très différent à chaque fois. Tout d'abord, pourquoi ce nom de groupe, Los Fanfarons ?
Los Fanfarons.
Il y a même de l'anglais, hein, t'as oublié de dire. Il y a
de l'anglais, pardon.
Il y a I Love Paris qu'on répète certes en boucle, mais qui compte comme de l'anglais. Donc ça fait 5 langues.
Alors ça compte.
Et Los Fanfarons, parce que Romain et moi, on fanfaronne parfois sur...
Mais exactement.
Vas-y, si
en fait, on a un peu créé un mot comme avec les schtroumpfs, en fait. Un peu comme dans les schtroumpfs, ils utilisent de schtroumpfer pour tout. Bah, nous, du coup, on l'utilise un peu comme ça aussi. Hein. On dit, est-ce que tu es dispo pour fanfaronner aujourd'hui ?
Voilà.
Ce qui sous-entend, est-ce que tu es dispo pour faire de la musique ? C'est un peu comme dans les schtroumpfs. Mais à la base, c'était parce qu'on fanfaronnait sur des plans DJ qu'on avait. Enfin, qu'on avait potentiellement, on était là, ah mais j'ai un méga plan et tout, machin, machin. Donc ça s'appelle fanfaronner. Et à chaque fois qu'on fanfaronnait, ben, le plan s'annulait. Et donc on a décidé de conjurer le sort. Voilà.
Est-ce que les plans, ils s'annulent encore aujourd'hui ?
Relativement, ça va. Ils sont à peu près validés à chaque fois.
Pourquoi avoir des titres en autant de langues différentes ? Est-ce que la langue correspond à l'ambiance du titre à chaque fois ? Est-ce que vous faites le choix en mettant les deux ensemble ?
Bah, c'est plus au gré de ce qu'on vit. Par exemple, Tatas Makito, bah, moi je rentrais d'une tournée en Amérique du Sud avec Romain, on a découvert qu'on adorait le reggaeton tous les deux. Donc on s'est dit, bah, vas-y, on fait une chanson un peu reggaeton style en espagnol. Après, on a rencontré une bande d'Italiens. Et pareil, ça nous a inspiré. On s'est dit, allez, pourquoi pas, dans un très mauvais italien, écrire une chanson. Et c'est ça un peu, je sais pas, c'est notre quotidianité qui nous a inspiré des chansons dans des langues différentes.
Exactement, hein. Franchement, c'est ça.
Il y a quoi d'autre ? Le japonais, c'est parce que Hikikomori, c'est un phénomène de société où on ne peut pas dire qu'on a écrit en japonais, mais voilà. Enfin, en gros, c'est beaucoup au gré de ce qu'on vit et des gens qu'on rencontre et tout.
De nos pérégrinations.
C'est ça. De nos fanfaronnages.
Le mot du coup prend tout son sens.
Ouais. Ça existe, pérégrination.
Oui, bien entendu.
C'est ça, super. Yes.
Fact-checking.
Tout existe. Existe.
Voilà.
Non, et ça rend une musique assez libre. Enfin, quand on l'écoute, on a vraiment cette. On se laisse aller à chaque titre. Et d'ailleurs, c'est très différent. On passe de Luna di Miele, qui est un titre avec Roberto Cigogna. Je le dis bien,
c'est cool.
Il y a un rapport au romantisme, parce que j'ai vu le clip sorti il y a 5 jours. Et il y a deux figurines de mariée et vous l'avez clippé à Paris. Alors pourquoi les deux figurines de mariée qui suivent dans le clip ?
Mais c'est par rapport au thème du morceau, non, je crois.
Enfin, ouais, c'est ça. C'est, en gros, Luna di Miele, c'est une chanson qui parle d'une lune de miel, mais en demi-teinte. Parce que la personne qui chante, en l'occurrence Roberto, dit que une lune de miel, c'est aussi un engagement, c'est des peurs autour du mariage. Enfin, il parle des peurs autour du fait de s'engager. Mmh. Et à la fin, on voit même un couteau. Ouais, c'est une lune de miel en demi-teinte.
Exactement.
un demi-tête. C'est ça. On passe de ça à un autre morceau où on va t'envoyer de la grosse house dans la gueule.
Yes.
Alors, pourquoi ce morceau ?
Ben, c'était pas. Mais en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est assez libre dans le sens où on fait de la musique en s'amusant, quoi. En fait, ouais. Un peu comme un bac à sable, mais pour adultes. Parce que s'il y avait du sable dans le studio, ça serait hyper compliqué et tout pour faire de la musique.
C'est vrai.
Donc, voilà, c'est vraiment l'amusement qui prime. Et donc, en effet, je me souviens, pour ce morceau, t'étais arrivé au studio.
C'est ça.
Avec cette idée, on l'a fait dans la journée, et puis c'est terminé, quoi.
Oui, en gros, effet, c'est cathartique.
Ouais. J'avais juste un a cappella, et Romain, il a fait une grosse instru bien techno dessus. Mm. On a superposé une punchline avec une musique ouais. Le même jour, comme ça.
Ça allait vite, hein.
Ouais.
Celle-là, elle allait très vite.
Ouais, c'est vrai, particulièrement, ouais. Mm.
Vous avez fait du live pendant très longtemps sans faire d'album. Pourquoi être arrivé à faire un album ?
Mais oui, c'est une bonne question, parce qu'en effet, à la base, on s'est rencontrés au sein d'un groupe dans lequel on joue toujours et qui est toujours actif, qui s'appelle Les Clopes, donc dans lequel on est tous les deux musiciens. Et on est sept en tout dans Les Clopes, mais il y a nous aussi dedans. Et en fait, on a commencé à composer de la musique ensemble dans le cadre de Les Clopes. Et après, c'est vrai, quand on se recroisait pas mal à cette époque, on s'est dit « vas-y, faisons des DJ sets ensemble ». Et après, on s'est dit, en faisant les DJ sets, on s'est dit, ça serait cool d'avoir nos morceaux, quoi, de passer nos morceaux. En fait, c'est ça qui est parfait avec les DJ sets, c'est que tu peux, en plus, quand tu composes des morceaux et que tu es DJ, tu peux tester tes morceaux en DJ set. Donc, par exemple, si on a envie d'avoir, un morceau un peu dansant sur lequel on peut faire des solos de clavier et de guitare, on le compose l'après-midi et puis on le passe le soir.
On ne vous demande jamais des morceaux sur les DJ sets, c'est vraiment libre, c'est vous qui choisissez de passer ce que vous voulez.
Oui, mais ça dépend des contextes en fait. Mais oui, en général, c'est quand même ça.
Ouais, c'est vrai que ça permet de les tester sur les systèmes des clubs et tout. Et d'ailleurs, une fois, on a eu un peu une mauvaise surprise. On était bookés pour les Jeux Olympiques sur le parvis de l'hôtel de ville. Il y avait des enceintes, mais énormes subs. Et nos morceaux n'étaient pas encore vraiment mixés. Et on a failli faire exploser l'hôtel de ville avec les basses.
Il y avait beaucoup de basses, ouais.
Mais ça va, il est encore là.
Il est encore là.
Il y avait beaucoup de policiers autour, donc si jamais il explosait, ça aurait été sécurisé.
Ouais, voilà.
Dans le titre Ce dragon-là, vous parlez de maîtrise des dragons intérieurs. Est-ce que vous maîtrisez vos dragons intérieurs, vous ?
Plus ou moins.
Mas o menos. Non, mais on travaille tous dessus, j'imagine, non ?
Ouais, je pense. Mais la musique a peut-être l'effet aussi de le réguler ou de le gérer.
Tout à fait. Absolument.
C'est vrai qu'avec Romain, quand on a fait un morceau en une journée, ce qui nous arrive souvent, et qu'on rentre à la maison, on est fiers d'avoir fait un nouveau morceau, ça nous allège vachement. Enfin, moi, je sais que ça me fait du bien d'avoir des nouveaux morceaux à notre actif. Et comme on est assez productifs ensemble, vu qu'on est très complémentaires, on en a fait vraiment beaucoup des morceaux, 20, 30, ça fait au moins 30 journées où on rentre le cœur léger.
C'est vrai, totalement. Mais c'est vrai, c'est trop ça. Non, c'est vraiment une des meilleures sensations. C'est trop agréable d'avoir fait un morceau et de l'écouter dans ses écouteurs au retour du studio. Là, c'est trop bien.
De toute façon, c'est la création. Enfin, je vous imagine pas vivre sans la création. J'imagine, non, c'est
impossible. Et impossible.
Ouais. Impossible.
Sinon, on se dessécherait comme des plants de tomates qui n'ont pas été arrosées.
Exactement. Tomate cerise.
Tomate, bac à sable. Il y a un rapport au voyage qui est quand même assez présent dans toutes ces langues. C'est parce que vous, le voyage, c'est un truc qui vous est venu naturellement et que vous mettez dans votre musique Je veux dire, avec les différentes collaborations, les différentes langues chantées.
Oui, tout à fait. En réalité, c'est vrai qu'on a énormément d'influences diverses. Donc en soi, et puis on a quand même pas mal voyagé chacun de notre côté. Donc oui, forcément, le voyage musical ou physique, on a beaucoup, beaucoup fait. Et puis c'est vrai qu'on se pose pas trop de questions par rapport au fait de mélanger des styles entre eux, de les faire de manière un peu bancale parfois. Je trouve que c'est ce qui donne aussi le côté vivant de la musique. C'est important, je trouve, de garder ce côté vivant.
Il y a aussi qu'on adore collectionner des morceaux et le fait de voyager, parfois tu ramènes des morceaux en avant-première, genre par exemple en Amérique du Sud, j'avais découvert Bad Bunny, mais vraiment il y a super longtemps, et Romain il avait adoré. Voyager c'est aussi ramener de la musique à la maison, en gros.
Totalement.
Et comme on est DJ tous les deux, on est très Donc très excité par ça aussi.
Oui, parce que je prenais plein de couleurs, plein de sonorités, en fait, c'est ça.
C'est vrai que c'est... En fait, quand
toi,
j'y pense...
Toi, en Grèce, t'as ramené... je sais plus, à un moment, t'as ramené un groupe obscur de Grèce, là, qui était ouf.
Ah oui, c'était quoi ?
Un truc très traditionnel, magnifique.
Oui. C'était super,
c'est vrai que c'est à chaque fois, en plus, comme on adore, on a un peu les mêmes goûts, on dit « Ah putain, j'ai découvert ça !» J'ai dit des gros mots. Ouais, voilà, donc le voyage, c'est aussi ramener de la musique
mais
à la
vrai,
maison.
Ça me fait penser, en plus, je me souviens, ma copine, elle habitait à New York, et en fait, c'était il y a un petit moment qu'elle y habitait, et je me souviens que les premières fois où j'étais allé la voir, elle me faisait écouter Billie Eilish, et ça fait trop mec qui se la raconte, mais genre personne connaissait en France, parce que ça venait de sortir, et donc moi j'écoutais, j'étais là, waouh, c'est trop bien ce truc et tout. Et après, j'ai trop vu le truc arriver et tout, mondialement et tout. Mais genre, au début, je l'ai vachement associé à ça. Donc, c'est ce que tu dis par rapport au voyage. Tu sais, quand tu associes en voyage une chanson. Donc, moi, j'ai associé trop Billie Eilish à New York.
En tout cas, votre dernier album s'appelle Ventilo et on l'associe à l'été. C'est un très bon remède contre la chaleur. Je vous le recommande. Une sortie le 23 mai. Merci à vous deux d'avoir été avec nous.
C'est déjà fini. Non
oui, c'est déjà.
Je rigole. C'était trop cool. Merci beaucoup.
Et on va, à vrai dire, tout de suite écouter l'un de vos sons qui est Luna di Miele.
Ouais.
Una luna di miele si specchiava sul mare e mentre tutto finiva noi stavamo a guardare e non è stato l'amore. Anche se un po' criminale, tu sempre in controcorrente, io che mi lascio cullare.
Una luna di miele si specchiava sul mare e mentre tutto finiva noi stavamo a guardare. E non è stato l'amore, anche se un po' criminale, tu sempre in controcorrente, io che mi lascio cullare. E non è stato l'amore, io che mi lascio cullare. Se presto magari ripasso, ma l'amore è sempre amore, anche se un cuore è ancora a metà. E scusami adesso, ma il cuore obbedisco, che l'amore è sempre amore, anche se un cuore è ancora a metà. Mi chiedi come va, però manco mi vedi. Ti dico chi lo sa, tanto tu non ci credi. Chissà dove arriveranno e che strada stanno facendo. Mi chiedi come va, però manco mi vedi. Ti dico chi lo sa, tanto tu non ci credi. Chissà dove arriveranno e che strada stanno facendo.
c'était Luna di Miele de Lance Fanfarons sur 93.9.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
Dilila, s'il te plaît, fais-moi rire.
Eh bien, je vais essayer de te faire rire, Sofiane. Bon, alors cette semaine, alors que l'été arrive, avec lui la saison des festoches, ce n'est pas aux Vieilles Charrues ou à Rock en Seine qu'on s'arrête, mais bien au festival du racisme. Et oui, pour sa 357e édition, l'iconique rendez-vous de tous les racelards de France s'est ouvert en fanfare avec le tant attendu rapport sur les frères musulmans, commandé par Darmanin. Alors Bruno Retailleau nous faisait une espèce de calendrier de l'Avent à la merde en faisant fuiter peu à peu des éléments. Ce sera accablant. La société française va basculer dans la charia. Ils préfèrent le gigot halal au gigot halal. Il nous a teasé un truc d'une main de maître. Moi je lui dis, Bruno, tu t'es trompé. C'est pas le festival de Cannes ici. Le mec d'habitude il voit un grand truc rouge au sol, il pense direct que c'est un tapis de prière. Pourquoi tu fais pas confiance à ton sixième sens? Ton ministère il ressemble à la croisette peut-être. C'est quoi la prochaine étape? Confondre Elisabeth Borne et Catherine Deneuve?
Nous sommes des sœurs jumelles.
L'article 49, alinéa 3 de la Constitution.
Bon, après, vu les liens pas déconnants entre violence sexuelle et monde du cinéma, on peut rêver du prochain Marvel réalisé par Darmanin. On sait juste que ça s'appellera pas Musulmane. Ce rapport, au final, il est pas si important parce que le cabinet de Gérald Darmanin avait expliqué dans le JDD que nous n'avons pas besoin de ce rapport pour comprendre. Nous savons. Gégé y carbure, il est entre son projet de méga prison en Guyane pour enfermer tous les méchants et son engagement militant contre l'existence des Noirs et des Arabes. Au ministère de la Justice, ils ont installé une grande boule de cristal et tous les jours après le café, ils font une séance de voyance. Je vois les mosquées, je vois le voile, je vois les frères musulmans. Mais alors, je me suis posé la question, c'est qui ces frères musulmans dont tout le monde parle? Est-ce que c'est des frères qui sont tous les deux musulmans? Crazy Frog et Bébé Lily? Juste des frères? J'en sais rien. En tout cas, les entendre, les frères musulmans sont partout et je suis obligé d'admettre que, ben, c'est vrai, j'arrête pas de les croiser, de les entendre rire dans mon hall. Hier soir, en voulant prendre ma douche, je tire le rideau et les frères musulmans étaient en train de se laver chez moi avec mon gel douche. Le lendemain matin, je regarde au fond mon bol de céréales, ils étaient encore là. Je suis pas la seule à les voir partout, puisqu'une obscure secrétaire du groupe parlementaire macroniste a déclaré que la robe de l'ENA situation sur la croisette, et oui, on revient encore à Cannes, était une démonstration de l'entrisme de l'organisation islamiste. Parce que la robe était un peu trop longue et trop orientale à son goût. Moi, face à ces accusations bidons, je propose à Macroniste de nous faire une démonstration de sortisme, à l'inverse, parce que ça fait 8 ans maintenant, on en a marre, donc tirez-vous. D'ailleurs, ce gouvernement illégitime, il veut battre le fer tant qu'il est encore chaud, parce que Gabriel Attal a commencé à sortir du bois pour porter une loi sur l'entrisme. On n'a que des lois racistes qui finissent en isme. On a la loi séparatisme, la loi entrisme. Franchement, j'ai trop hâte de la loi sur le bruxisme pour empêcher les musulmans de grincer des dents face à leurs propositions. J'aimerais vous dire que tout ce que je viens de vous raconter, ce n'est que du cinéma, mais hélas, tout est vrai. Peut-être que notre société a besoin d'un petit remake avec changement de producteur et de réalisateur. En tout cas, force à mes muslims sûrs et à vous, les studios.
Bah, merci énormément, Delila, et merci tout le monde. C'est déjà la fin de la matinale. On pleure, vous pleurez chez vous, je le sais, je vous entends. On se quitte dans la joie et dans la bonne humeur, car demain, c'est férié, olé olé. Merci à nos invités de ce soir. Anne Savinel Barras, Los Fanfarons, merci aux bénévoles avec nous, Lila, Francesca, Fabien, Hugo, Delila, Sylvie Enréal, Maywen et Alice à la coordination. Tout de suite, le monde zygomatique. Restez branchés car j'y participe. Simon, on n'invite pas qui ce soir?
Ouais, on n'invite pas, comment il s'appelle déjà? Jeff Bezos.
Voilà, l'un des hommes les plus riches du monde, s'il te plaît, fais péter la thune. On se retrouve, nous, merci Simon, lundi à la matinale. Bonne soirée à tous, see you later.